Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous connaissez cette publicité maintenant qui date un peu, mais qui sur les frites McCain. Bon, j'avoue, elle date des années 90. Et le slogan, je ne sais pas si vous en souvenez, c'était ceux qui en parlent, c'est ceux qui en parlent le plus qui en mangent le moins. Eh bien, avec cette parabole sur l'argent que Jésus nous propose, c'est souvent l'inverse qui se passe. Tout le monde en mange, mais personne n'en parle. Chacun y pense lorsqu'il va regarder son compte à la fin du mois et qu'il reste plus grand chose dessus. Quand il regarde agacé sa fiche de paie en dessous de ce qu'il pense qu'il devrait recevoir. Beaucoup d'entre nous aspirons à en avoir un peu plus. Cette perspective motive beaucoup de nos choix de vie, d'éducation, de travail. Et vous savez, avant de vouloir devenir pasteur, j'avais choisi d'être expert comptable. Et vous savez pourquoi j'avais choisi d'être expert comptable? C'était parce que je voulais gagner plein d'argent. Le reste ne m'importait pas du tout à l'âge de 17 ans. D'ailleurs, je n'étais pas chrétien, même si j'étais né dans une famille chrétienne. Même si nous savons tous que l'argent ne fait pas le bonheur, nous savons tous aussi qu'il y contribue, du moins nous ne le disons pas, mais nous le pensons. Et je vous rends une conversation type autour de ce que gagne une personne. Ben moi, je n'ai aucun problème à parler d'argent. Ah bon, alors tu gagnes combien? Je peux pas vous dire officiellement, vous savez, c'est variable, hein, quoi. Ben, tu veux pas me le dire? Ben bon, ouais, je veux bien te le dire, ouais. Pourquoi c'est si difficile? Peut-être que ça peut déclencher des convoitises. En plus, la tradition catholique en a rajouté un peu. Bref, que l'on soit riche ou que l'on soit pauvre, l'argent est un problème. Et il y a un proverbe qui nous en parle, il nous dit « Ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui est nécessaire, de peur qu'étant rassasié, je te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou qu'étant dans la pauvreté, je ne commette un vol et ne porte atteinte au nom de Dieu. » Qu'on soit riche ou que l'on soit pauvre, l'argent peut avoir de grandes conséquences sur nous. Et Jésus le savait très bien, parce qu'il connaissait le cœur de l'homme. Alors vous vous doutez bien qu'il ne s'est pas passé le plaisir d'en parler. C'était sans doute l'un des sujets qu'il affectionnait le plus. Je vous invite à voir le film sur l'argent que Jésus nous propose. Attention, le film est interdit aux moins de 14 ans. Non pas pour les scènes à caractère choquant ou à des meurtres dégoulinants de sang, mais cette proposition, cette image que Jésus nous propose est violente. Les jeunes diraient « trash ». Je vous invite à lire avec moi Luc 16, 1 à 15. La parabole sur le gérant malhonnête. Luc 16, 1 à 15. Jésus dit encore à ses disciples, un grand propriétaire avait un gérant. On vint lui dénoncer sa conduite, car il gaspillait ses biens. Le maître le fit appeler et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Remets-moi les comptes de ta gestion, car tu ne continueras pas à gérer mes affaires. » Le gérant se dit, « Que vais-je faire, puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens? Travailler comme ouvrier agricole? Je n'en ai pas la force. Me mettre à mendier, j'en aurais honte. Ah, je sais ce que je vais faire pour que des gens me reçoivent chez eux lorsque j'aurai perdu ma place. » Là-dessus, il fait venir un à un tous les débiteurs de son maître. Il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?»« 40 hectolitres d'huile d'olive, » lui répond celui-ci. « Voici ta reconnaissance, » lui dit le géant. « Assieds-toi là, dépêche-toi et inscris 20 hectolitres. » Ensuite, il dit à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? 500 sacs de blé. Prends ta reconnaissance de dette, reprend le gérant, et inscris-en 400. » Le maître admira l'habileté avec laquelle ce gérant malhonnête s'y était pris. En effet, ceux qui vivent pour ce monde sont plus avisés dans leurs affaires avec leurs semblables que les enfants de la lumière. Et moi, je vous le déclare, utilisez les richesses entachées d'injustice pour vous faire des amis. Ainsi, le jour où elles vous échapperont, ils vous accueilleront dans les demeures éternelles. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour les grandes, pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, qui vous donnera celui qui vous est personnellement destiné ? Aucun serviteur ne peut être en même temps au service de deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. En entendant toutes ces recommandations, les pharisiens qui étaient très attachés à l'argent se moquaient de Jésus. Mais il leur dit, vous, vous êtes des gens qui veulent se faire passer pour justes aux yeux de tout le monde. Mais Dieu connaît le fond de votre cœur. Ce qui est en haute estime parmi les hommes, Dieu l'a horreur. Franchement, Samuel, tu abuses. Pas Samuel, Samuel. Tu crois vraiment qu'avec cette histoire, on va savoir ce que Jésus pense sur l'argent? Franchement, cette histoire, elle est honteuse. Elle est scandaleuse. Elle est même machiavélique, je trouve, à première vue. Le « encore » de notre verset 1 fait le lien avec ce qui précède. Alors, allons voir deux secondes ce qui se passait avant. Luc 15, 1 à 3. Les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires, nous dit Luc, se pressaient autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient « Cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. » Alors Jésus leur répondit par cette parabole. Puis Jésus parle trois paraboles. La parabole de la brebis perdue, la parabole de la femme qui a perdu une pièce sur les 10, et la parabole du fils perdu. Pour montrer aux pharisiens que Jésus doit s'occuper de ces gens qui sont perdus, de ces collecteurs d'impôts et de ces prostituées. Car il y a beaucoup de joie quand un pécheur se repent. Et en gros, en version moderne, Jésus pourrait leur dire et pourrait nous dire la chose suivante. Vous dites que je traîne avec la racaille, notamment les collecteurs d'impôts, des voleurs d'impôts qui s'en mettent plein les poches, grâce à leur position, ou des prostituées, des femmes qui couchent avec plusieurs hommes. Eux, je vous le dis. Eux, ils savent qu'ils ont besoin d'être changés. Mais vous, vous les pharisiens, vous, Sainte Nitouche, vous vous croyez saints, mais vous aussi vous avez de gros problèmes. Vous vous faites passer pour saints en ne vous mélangeant pas avec les pécheurs et en montrant vos richesses. Ah, vous vous faites passer pour des gens bénis. Ah, la bénédiction, vous aussi, vous croyez que l'argent est un moyen pour Dieu de vous bénir. Mais vos richesses, votre argent au contraire, vous l'aimez et vous y êtes attachés. Vous y êtes même vendus. Mais vous êtes incapable de le reconnaître. Ce n'est pas un gage d'approbation. Au contraire, Dieu a en horreur votre attachement à l'argent plutôt qu'à lui. En s'adressant à ses disciples, Jésus dénonce le cœur des pharisiens. Jésus dénonce le péché des uns, les pharisiens, en avertissant les autres, les disciples. Je vous propose de ne pas trop vite nous prendre pour des disciples ou pour des pharisiens. Mais laissons le texte travailler nos cœurs. Acceptons le regard de Jésus sur notre cœur. Je vous invite à découvrir ce que Jésus a dans la tête à propos de l'argent. Et je ne vous cache pas que c'est chaud. Hein. Jésus s'adresse à la fois aux riches comme aux pauvres. La question est notre rapport à l'argent. Jésus voudrait nous encourager à trois actions. Ça sera le plan. Ne traîne pas avec ton argent, car ce n'est pas le tien. Donne ton argent, c'est le seul moyen de blanchir de l'argent sale. Considère ton argent comme le test de ton amour pour Dieu. Ne traîne pas avec ton argent, car ce n'est pas le tien. Entrons dans la parabole. Un grand propriétaire avait un gérant. On vint lui dénoncer sa conduite, car il gaspillait ses biens. Ce maître est sans doute un propriétaire d'un grand domaine agricole qu'il a mis en gestion auprès d'un homme libre. Celui-ci a confié ses biens pour un temps. C'est le principe de la gérance. En gros, vous gérez les biens d'autrui et en contrepartie, vous percevez un revenu. Et vous êtes censé faire fructifier le bien qui vous est confié. C'est à peu près comme ça que toutes les grosses sociétés fonctionnent. Les sociétés du CAC 40, les 40 plus grosses sociétés françaises, je résume un peu, ont tout un gérant qu'on appelle président, directeur général. Il prend des millions d'euros chaque année et il est censé en faire gagner à la société qu'il gère. Or, c'est la situation de notre parabole. Un jour, le fonds de pension, le plus gros propriétaire, le propriétaire de notre parabole, vient le voir et lui dit « J'ai appris que tu abuses complet. Tu dilapides les biens de la société. » Je te laisse encore gérer jusqu'à la prochaine fois que l'on fait un point sur les comptes, dans 15 jours, car mes doutes sont fondés. Il est sommé de s'expliquer sur la compta avant d'être licencié. Le propriétaire lui demande un bilan, un compte de résultat et sa lettre de démission en suivant. Imaginez la scène pour ce gars. Je vous invite à vous mettre dans sa tête. Ça y est, je suis démasqué. Je dois faire la compta de mon maître. Il ne me reste plus que quelques jours pour gérer encore ses biens. Après, c'est foutu. Qu'est-ce que je vais faire après? J'avais une situation enviable, j'avais une maison, je gérais tranquillement les biens de mon maître. C'est le drame, je suis démasqué. Je suis découvert, je vais être licencié. Je n'ai même pas stocké de l'argent sur mon compte. J'ai sans doute déjà tout dépensé. J'avais une super situation, le maître me prêtait sa maison et j'y habitais sans aucune préoccupation. Qu'est-ce que je vais faire? Le maître m'a laissé une semaine pour faire la synthèse et préparer mon départ. Ça ne sert à rien de me justifier, ça me ferait perdre encore du temps. Je pourrais bien travailler, mais je ne fais plus ça depuis longtemps. Ce n'est plus de mon rang social. Je ne vais pas me rabaisser à cette tâche. Moi, j'ai passé ma vie à gérer. En plus, qu'est-ce que vont dire mes amis? Sans parler de mendier, ça serait la honte complète. Mais ça y est, je sais ce que je vais faire. Comme je n'aurai plus de lieu où habiter, ni aucune ressource, il me suffit d'utiliser le peu de temps qui me reste avec l'argent de mon maître pour organiser ma sortie. Je vais me faire un parachute pour que je sois tranquille quand je n'aurai plus la gestion de mon maître. Et comme parachute, je vais me faire accueillir par des gens. Je sais que les gens sont hospitaliers, surtout ceux qui auront bénéficié des cadeaux que je leur ferai. Je vais utiliser de l'argent qui ne m'appartient pas pour me faire accueillir plus tard. Tiens, je vais faire venir des personnes qui doivent un argent fou à mon maître et je vais leur dire de diminuer leur reconnaissance de dette. Ils vont écrire de leurs mains et je vais les approuver. L'écriture du débiteur authentifiera la réalité de ma reconnaissance de dette. Mon maître sera lésé, c'est vrai, mais moi, je serai à l'abri. Imaginez la scène. C'est horrible. Et pourtant, c'est gentiment ce que font beaucoup de patrons des plus grosses sociétés qui sont en France, qui nomment des amis d'autres patrons dans leur conseil d'administration pour se faire accueillir dans une autre société quand ils seront licenciés. Et où certains des présidents qui, juste avant leur départ, nomment un grand nombre de hauts fonctionnaires pour assurer la suite. C'est scandaleux, c'est lamentable, c'est tout ce que vous aimez, c'est surtout malin. beaucoup mieux que de récupérer une grosse somme d'argent qui peut nous être redemandée. Regardez tous ces parachutes dorés. Mais là, ce n'est pas possible, car l'argent a été donné à d'autres. Je vous décris la pensée du maître en voyant la manigance. Vraiment, ce gérant était un voyou. Non seulement il a dilapidé mes biens, mais en plus il a falsifié les titres de créance. Et maintenant je ne peux rien contre lui. La compta est tenue en bonne et due forme. Il a utilisé mon argent pour organiser sa sortie. Il a compris qu'il ne lui restait plus rien à gérer et donc bientôt plus rien. Et il a utilisé le peu de temps qui lui restait. Vraiment, ce gérant malhonnête a été habile. La tombée est terrible. Elle vient de Jésus. En effet, nous dit le texte, ceux qui vivent pour ce monde sont plus avisés dans leurs affaires avec leurs semblables que les enfants de la lumière. Ou pour le reformuler dans les termes d'aujourd'hui, les patrons de ces grosses sociétés ou les présidents de la République comprennent parfois mieux le fonctionnement du monde des affaires que les chrétiens ne comprennent le fonctionnement du royaume de Dieu. Là, vous vous dites, Samuel, tu te rends compte de ce que tu dis? Tu es en train de dire que ces personnes sont plus honnêtes que moi, chrétien? Mais ça va pas. Non, je ne suis pas en train de dire cela. Jésus n'est pas en train de louer la malhonnêteté du gérant. Dans cette histoire qu'il raconte, non, il loue l'habileté et sa compréhension du temps et du monde dans lequel il est. Et il met celle-ci en opposition avec la compréhension des disciples et de tous les croyants à leur suite. Pour le dire autrement, si vous ne savez pas que le moment que vous êtes en train de vivre, de passer aujourd'hui, est peut-être le dernier de votre vie, et qu'en traversant la rue, vous allez peut-être mourir, est-ce que vous pouvez dire que vous avez pris l'urgence, la mesure d'urgence de vivre pour Dieu avec votre argent? Je me rappellerai toujours de mon cousin, l'un de mes meilleurs. On s'éclatait toujours bien ensemble. Pourtant, un jour, à l'âge de 18 ans, sur un terrain de foot, il est tombé. Il ne s'est pas relevé. Rupture d'anévrisme. Je vous en supplie, soyons avivés. Sachez que le temps est proche. Prenons conscience, comme ce gérant, qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps à gérer les biens que Dieu nous a confiés. Ne tardons pas. On ne connaît pas notre demain. Ne prolongeons pas le risque d'être séparés de celui qui nous aimera toujours. Je ne sais pas si vous l'aviez peut-être oublié, mais ce gérant représente l'ensemble de l'humanité devant Dieu. Nous sommes tous gestionnaires de l'argent de l'argent qui ne nous appartient pas. Dieu est le vrai propriétaire de nos biens. Nous appelons ce que nous avons, ce que nous gagnons souvent notre argent, mais nous vivons souvent comme si avec lui nous étions susceptibles d'organiser notre vie bien tranquillement, mais comme si celui-ci pouvait assurer même notre repos. Pourtant, en fonctionnant de cette manière, nous utilisons l'argent d'une manière qui n'est pas du tout habile. Car nous nous concentrons sur le temps que nous sommes là au lieu de regarder à la perspective du royaume qui se propage après notre mort. Il se pourrait bien que nous n'ayons pas bien compris l'imminence du royaume et que l'argent que nous avions ne nous appartienne pas. Et que nous ayons une compréhension du royaume de notre Dieu beaucoup plus faible que ses patrons. Ne traînons pas avec notre argent, car ce n'est pas le nôtre. C'est pas facile, mais c'est Jésus. Deuxième point, donne ton argent, car c'est le seul moyen de le blanchir de l'argent sale. Verset 9. Et moi, je vous le déclare, faites-vous des amis de vos richesses entachées d'injustice. Ainsi, le jour où elles vous échapperont, ils, vous entendez les amis, vous accueilleront dans les demeures éternelles. Voilà, jusqu'à présent, on aurait pu croire que Jésus ne cautionnait pas, mais là, il donne tout son poids. Moi, je vous le déclare. Qu'est-ce que Jésus peut bien vouloir dire? On a l'impression qu'il cautionne la façon dont le gérant s'est fait des amis, il étant même au royaume de Dieu. Ce passage pose beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que veut dire Jésus ? Le fruit de mon travail chaque mois est-il une richesse injuste ? Comment peut-on se faire des amis avec de l'argent sale ? N'est-ce pas un peu scandaleux comme méthode ? Qui sont ces amis qui vont nous accueillir ? Quelles sont ces demeures éternelles ? Mes amis, comme le temps est compté et que vous ne voulez pas que je prêche qu'à 17h du soir, je vous résume la pensée de Jésus dans les termes d'aujourd'hui. Je vous le dis, c'est pas Jésus qui parle, c'est moi qui transpose. Je vous le dis, Toulousain, Toulousaine, l'argent que vous croyez avoir gagné honnêtement ne l'est pas. Vous faites partie d'un système mondial dans lequel vous êtes partie intégrante. Vous achetez des biens comme des habits à petit prix qui viennent de Chine, qui sont faits au mieux par des adultes, au pire par des enfants, dans des conditions plus ou moins déplorables pour que vous puissiez les acheter pas cher. Votre pays qui vous permet d'avoir des soins pas chers et un système de santé qui vous couvre grâce à vos cotisations sociales sur votre salaire ou sur vos indemnités chômage, le peut grâce à la vente d'armes pour que d'autres pays puissent s'entretuer et que nous puissions nous faire de l'argent sur leur dos. Chaque pays se bat économiquement les uns contre les autres. Regardez la politique de Donald Trump, regardez la politique de l'Union européenne. Notre système économique est basé sur la croissance de la consommation et de l'investissement. Par conséquent, il est intimement basé sur l'innovation et sur l'insatisfaction. Ainsi, l'objectif de toute entreprise est de développer des produits ou biens qui génèrent de nouveaux besoins qui étancheront notre insatisfaction chronique. D'ailleurs, ces nouveaux besoins nous font souvent perdre du temps, de l'argent et même des relations. Il suffit de regarder les portables et Facebook et Instagram et je suis plus à la page. Ainsi, l'argent génère de puissantes inégalités. Les riches deviennent toujours plus riches et les pauvres le sont toujours plus. Et je ne suis même pas de l'extrême gauche. Je suis juste un pasteur stagiaire qui a été aussi expert comptable. Jésus le dit, notre argent, celui que nous avons dans notre compte en banque, que vous croyez, que nous croyons avoir bien acquis, ne fait pas partie des réalités justes du royaume. Il n'a aucune place dans le royaume, il est entaché d'injustice. Il ne peut rien pour nous, il ne peut rien pour vous dans le futur après notre mort. Vous pouvez mettre tout l'argent que vous voulez dans votre cercueil, il ne vous servira à rien. Tellement de personnes stockent un patrimoine pour le futur de leurs enfants, alors qu'en réalité, ils oublient souvent que c'est la pire des choses qu'ils leur transmettent. Regardez la bataille pour la succession après la mort de Johnny. Et j'ai d'autres exemples, même parmi les chrétiens. La seule chose que vous pouvez faire avec, nous dit Jésus, c'est de vous faire des amis. Pour que le jour où vos richesses ne vous serviront plus à rien, après votre mort, ceux-ci vous accueillent là où ils vous auront devancé, grâce à vos richesses. Ainsi, Jésus leur dit, donnez votre argent. C'est le seul moyen de blanchir votre argent sale. Donnez-le. Et vraiment, vous n'êtes pas fous de donner ce que vous ne pouvez conserver. En gros, Jésus leur dit, éprouvez l'immense joie de voir vos dons faire avancer le royaume de Dieu, jusqu'au point que cela devienne une obsession. C'est ce sentiment que vous éprouvez quand vous prenez plaisir à donner à un de vos plus proches. Vous avez un plaisir immense à donner à vos enfants. Découvrez la même chose avec Dieu. Jouissez du plaisir de voir par votre don l'exaucement de prières pour des personnes en difficulté autour de vous, des pauvres dans votre église ou ailleurs. Jouissez du plaisir de voir par votre don des associations qui travaillent, qui font un travail missionnaire auprès des immigrés, auprès des pauvres, auprès des réfugiés, qui n'ont pas perdu leur vocation missionnaire, mais qui souhaitent répondre aussi aux besoins primaires. Jouissez du plaisir de voir par votre don des jeunes de vos assemblées partir en voyage missionnaire pour découvrir de nouveaux horizons, voir des chrétiens engagés, pourquoi pas eux-mêmes, s'engager. Jouissez du plaisir de donner à vos employés un salaire juste si vous êtes patron. Jouissez du plaisir de donner à votre église pour que celle-ci rayonne plus. En résumé, jouissez et jouissons du plaisir d'utiliser notre argent pour nous faire des amis pour le royaume, pour que le royaume progresse et que le plaisir de Dieu nous remplisse encore plus. Dieu ne nous promet rien en retour immédiat. Peut-être que nous n'obtiendrons rien sur la terre. Une chose est sûre, le don en soi vous aura permis de vous faire des amis. Il vous obtiendra un bien précieux quand vous verrez Dieu. Donnons pour que notre argent produise des dividendes pour le royaume, pour que nous ayons comme ce gérant malhonnête des amis qui nous accueillent. En agissant ainsi, nous ne faisons que reproduire le même schéma que le gérant. Nous donnons des biens qui ne nous appartiennent pas, les biens du maître, de Dieu, qui nous a laissés à notre disposition, des biens mal acquis, source de l'injustice, et nous faisons cela pour nous accueillir, car ceux-ci nous viendront un jour à manquer. Par cette attitude, nous agissons en fin connaisseurs du royaume. Nous comprenons que la vie en est qu'une partie de notre folie, et quand bien même nous avons raflé tout l'argent de la banque, quand la partie est finie, l'argent reste dans la boîte. C'est la même chose avec notre argent. Qu'avons-nous fait de notre argent pour plus tard? Donne ton argent, c'est le seul moyen de blanchir de l'argent sale. Mais sans doute la conclusion de cette parabole nous invite à regarder la situation parce qu'elle est assez grave et c'est sans doute le point culminant de notre texte. Considère ton argent comme le test de ton amour pour Dieu. En gros, l'argent fait partie de ces petites choses. Si quelqu'un est fidèle dans sa gestion, on peut lui faire confiance pour ce qui est bien plus important, pour les priorités du royaume. Par contre, s'il n'est pas fidèle dans ses richesses entachées d'injustice que le maître nous a fait gestionnaire, alors croyez-vous que le maître vous confiera les véritables? Et là, je paraphrase Jésus. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qu'on vous a confié, savoir les biens terrestres, confiés par Dieu, pensez-vous que Dieu vous donnera ce qui vous était destiné, à savoir ce que nous avons en Christ, le salut, la vie éternelle, le pardon? Cette parabole est très choquante. Si elle venait de moi, je pense que on n'aurait pas accepté, hein. En plus, c'est le renversement complet des valeurs. D'habitude, on regarde si une personne gère ses biens d'abord, avant de lui confier les siens. Pourtant, Jésus, là, il fait un autre test. Dieu, dans ses affaires, laissez-moi garder cette image, mais avec ses enfants, nous ne sommes pas ses affaires, mais ressemble un peu à un père qui donne une partie de ses biens à gérer à son fils. La plus petite partie, vous savez, la plus vile, un petit pécule d'argent. Et il regarde de quelle manière cet argent est utilisé et géré. Et en fonction, il voit qu'il donnera l'héritage complet qui doit lui revenir. C'est un test. Ça ressemble étrangement à la parabole du jeune homme riche. À la manière avec laquelle tu gères et nous gérons notre argent, dit Jésus, en dit long sur notre relation à Dieu et à l'amour que nous avons pour lui. Nous entretenons d'ailleurs un rapport ambigu à l'argent. Il peut être tabou, symbole de prestige social, de respectabilité, de pouvoir. Il suscite la convoitise et la comparaison. On compare. Il déclenche même souvent des attitudes passionnelles. Amour, dépendance, avarice, cupidité. L'argent est devenu une valeur en soi, une valeur étalon. Mais sans doute, s'il occupe une si grande place, c'est qu'il est source de puissance. Il nous permet ou nous donne l'espoir illusoire de maîtriser notre vie, notre environnement et la vie des autres. Le problème, c'est que le désir irrésistible de l'argent conduit celui qui s'y soumet à un véritable esclavage, à une véritable adoration. Nietzsche! Je ne sais pas si vous connaissez Nietzsche, l'un des plus grands philosophes athées, celui qui a influencé notre modernité tardive, a particulièrement bien vu la situation. Et il dit, ce que nous faisions autrefois pour l'amour de Dieu, on le fait aujourd'hui pour l'amour de l'argent. c'est-à-dire ce qui donne maintenant le sentiment de puissance le plus élevé, et la bonne conscience. Peut-être que parmi vous se disent non-croyants, comme le dit Emmanuel Macron dans son discours devant le Congrès de cette semaine, il faut laisser aux Français la possibilité de croire ou ne pas croire. Eh bien, moi, je vous dis, je crois que cette classification croyant-non-croyant est tout simplement fausse. Nous croyons tous à quelque chose ou à quelqu'un. Nous sommes tous soumis à un Dieu. Nous en adorons tous un. Et pour Nietzsche, l'un des plus grands philosophes athées, je répète, aujourd'hui, le Dieu de beaucoup, c'est l'argent. À la devise « Ni Dieu ni maître » de mai 68, l'argent semble s'être paffé entre les mailles du filet. Le pouvoir de l'argent s'infiltre dans celui qui le détient, il le possède, il dirige ses pensées et même ses actions. Il peut l'amener à tricher, à dissimuler des profits pour éviter le paiement de l'impôt, à voler, à mentir, à donner des pots de vin. On croit se servir de l'argent, mais en fait on est souvent à son service. Dans notre texte même, le terme même « richesse » est « mammon ». Il y a de fortes chances pour que cela soit une personnification, une manière de personnifier l'argent. Celui-ci n'est autre qu'un nouveau Dieu auquel beaucoup peut-être d'entre nous se sont voués. Beaucoup de gens chrétiens ou non du XXIe siècle se moquent souvent intérieurement de la manière stupide avec laquelle tant d'hommes et de femmes de l'Antiquité adoraient de multiples dieux, ou se moquent de personnes d'autres cultures du XXIe siècle qui vouent encore aujourd'hui, malgré la science et la raison, un culte à des statues de bois ou de bronze. Eh bien, je crains qu'un bon nombre d'entre nous soient dans cette situation aujourd'hui. Vis-à-vis de l'argent, souvent parfois pas que étroitement associé avec le travail qui permet de dégager pas mal d'argent. Beaucoup adorent l'argent avec un niveau d'asservissement équivalent à ces peuples qui sacrifiaient leurs enfants à des dieux païens. Aujourd'hui, beaucoup sacrifient leur argent, leurs enfants, leur vie de couple sur l'autel de leur travail et de l'argent qui leur permet d'avoir. D'ailleurs, une telle situation finit souvent de manière tragique, car en faisant de lui notre idole, notre nouveau Dieu, nous trouvons notre identité en lui et en faisant cela, nous croyons obtenir de lui la satisfaction de nos désirs jusqu'au jour où celui-ci nous vient à manquer. Le problème avec cette idole, qu'est l'argent, c'est qu'elle est rarement reconnue comme telle pour ceux qui la vivent. Et c'était le cas des pharisiens. Tim Keller, un pasteur bien connu, fait ce constat. En tant que pasteur, les gens m'ont déjà avoué avoir commis presque tous les péchés. Presque. Mais je n'arrive pas à me souvenir de quelqu'un qui soit venu me dire « Je dépense trop d'argent pour moi-même. Je crois que mon amour de l'argent fait du mal à ma famille, à mon âme et aux gens qui m'entourent. » Pourquoi ? Car il est difficile à démasquer, il se cache souvent derrière de louables quêtes de sécurité, de reconnaissance, de sens. Quand l'argent a pris une telle place, il nous induit à oublier Dieu, nous plaçant notre confiance alors en l'argent plutôt qu'en Dieu. Et la conclusion de Jésus est sans appel. On ne peut pas servir deux maîtres. Soit on en aimera un, soit on le détestera. Soit on détestera l'autre. Soit on fera confiance à l'un, soit à l'autre. La Bible ne nous propose pas de changer de monde et la logique capitalistique. Elle ne propose aucun système économique pour remettre l'argent à sa juste place. Comme le dit quelqu'un, c'est seulement dans le cœur de chacun que la libération spirituelle est possible. Toute désobéissance de l'homme est d'attribuer la richesse et une valeur en soi, alors que la véritable richesse est en Dieu. Le problème est que les êtres humains sont séduits et possédés intérieurement par l'argent. Jésus veut enlever le caractère sacré de la richesse donnée par l'homme à l'argent en introduisant une nouvelle logique, une logique de gratuité une logique de don. Jésus a donné sa vie pour nous libérer de l'esclavage de l'argent. Lui, il a pris sur la croix ce péché pour que nous en soyons libérés et pour que son esprit puisse opérer cette transformation maintenant. À sa suite, nous sommes invités à entrer dans cette même logique de l'évangile, à désacraliser l'argent en faisant pénétrer la grâce et donc la gratuité dans les relations avec les hommes. Cela nous rend possible une libération par rapport à l'argent et à tout ce qui lui est sous-jacent, la peur du lendemain, la volonté de puissance. Notre usage de l'argent est donc un baromètre de notre connaissance de Dieu, du Dieu d'amour, du Dieu généreux, quels que soient d'ailleurs nos moyens. Le don n'a pas d'argent, le don n'a pas de montant. Si nous ne donnons pas avec joie, je vous invite à rentrer dans la joie du don, la jouissance profonde de se mettre à la place du Père qui lui-même a donné son Fils par amour. Par amour pour des pécheurs, il l'a donné. Que nous puissions rentrer dans cette jouissance profonde de savoir que nous pouvons dilapider les biens que nous a confiés le Maître et que la seule méthode de blanchir notre argent sale, c'est de trouver le plaisir en donnant. Alors Dieu nous aura trouvés fidèles dans les choses qui ne nous appartiennent pas pour nous combler des choses qui nous appartiennent. En redécouvrant le Dieu généreux, par le don, nous verrons s'éloigner l'emprise de l'argent qui veut toujours une plus grande place dans nos cœurs. Ce sujet concerne chacun d'entre nous, riche ou pauvre, car il touche à notre intériorité profonde. Je prie qu'aucun d'entre nous puissions passer à côté de la libération que le Christ désire nous donner. La vie éternelle, le salut était en jeu, la joie profonde était en jeu pour les pharisiens et peut-être pour certains parmi nous. Que Dieu nous vienne en aide, je vous invite à prier. Tu vois, Seigneur Jésus, que tu savais discerner dans le cœur, tu savais discerner ce qui ne se voit pas, et tu avais vu que les pharisiens avaient un problème avec l'argent. Ils y étaient attachés. C'était leur Dieu. Mais tu vois, des pharisiens sont venus plus tard vers toi. Ils t'ont accepté. Il n'y a pas d'espoir perdu. Nous pouvons toujours venir à toi. Tu es celui qui a pris tous les péchés, qui a pris la condamnation que méritait cette adoration, ce scandale, cette substitution. Substitution de l'argent à toi. Et tu désires nous pardonner. Tu désires qu'on confesse nos péchés pour pouvoir justement que nous obtenions le pardon. Vraiment, je te prie, Père éternel, que tu agisses dans les cœurs et que tu nous rendes réceptifs, sensibles à cette parole qui nous parle d'un sujet qui nous touche beaucoup, à nous occidentaux particulièrement. Au nom de Jésus-Christ. Amen.